Top, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé, en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Très exactement 9h40 sur France Inter. L'instant M, c'est parti, profitez-en.
Vous êtes en direct, allez-y.
Que reste-t-il de l'Express 65 ans après sa création? Les ventes sont basses, le site assez inexistant, mais c'est surtout le contenu éditorial du journal qui peine aujourd'hui à faire entendre sa voix. L'Express réinvente sa manière de travailler sur papier et sur écran. On vous raconte cela ce matin, mais on s'interroge. Comment publier? Soit, c'est une question. Mais publier quoi? Dire quoi? À qui? Pourquoi s'engager? Comment participer au débat public? L'Express semble ne plus y figurer.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Guillaume Dubois.
Bonjour Sonia de Villers, merci pour cette introduction enthousiaste.
Non, mais c'est vrai.
Sur l'Express.
Mais oui, c'est enthousiaste parce que vous réinventez votre manière de travailler. La vraie question aussi, c'est que racontez-vous? Que racontez-vous dans ce journal? C'est-à-dire que c'est pas que des questions de est-ce qu'on publie sur écran.
On va en parler, vous avez raison.
Sur le papier. Donc vous êtes directeur général de l'Express. Je rappelle que l'Express a été racheté par Altice en 2015 et intégré au pôle SFR Presse, comme le journal Libération par exemple, et que vous co-dirigez ce pôle. À mes côtés, Cyril Petit du JDD. Salut Cyril.
Bonjour Sonia.
Voilà votre regard sur la presse, comme souvent dans l'instant M. Vous allez nous parler ce matin de la folie Panini. Est-ce que Panini c'est de la presse? Eh bien figurez-vous que c'est du kiosque. Un mot d'abord, remue-ménage dans les radios. Par ordre d'apparition au générique, Radio France annonce le départ de son numéro 2, Laurent Guimier. Il retourne dans sa maison d'origine, Europe 1, où il a passé 14 ans. On l'attendait à la tête des trois médias que le groupe Lagardère entend conserver, c'est-à-dire Europe 1, le JDD et Paris Match. Le reste sera vendu et prochainement vendu. Je vous renvoie pour cela à la une de Libération, avec photo d'Arnaud Lagardère en pleine page et ce titre « Papa, j'ai rétréci l'Empire ». Bref, pour l'heure, Laurent Guimier n'est annoncé qu'à la tête du pôle radio, c'est-à-dire Virgin et RFM, les musicales, et Europe 1, qu'il lui faut redresser audience et chiffre d'affaires. Radio France, ensuite, annonce l'arrivée de Guy Lagache, ancien visage de Capital sur M6 et ancien directeur de l'info de la chaîne C8, et ce depuis l'époque D8 Bolloré. Toute l'équipe dirigeante de Radio France est remaniée. Guy Lagache est la première nomination d'une série à venir. Il devient donc directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale. Ce soir, sur TF1, Didier Deschamps va dévoiler les 23 bleus de la Coupe du Monde. Cyril Petit, moment décisif pour qui? Bah pour le monde du football, certainement. Certes. Pour les passionnés de football, certainement. Mais aussi pour tous les collectionneurs de Panini.
Et oui, parce que Panini opère sa sélection bien avant la sélection officielle. L'album est d'ailleurs en vente depuis fin mars. Et les joueurs ont été choisis par Panini dès le mois de janvier. Mm-hmm. Et les photos ont même été soumises à validation pour être sûr qu'ils n'avaient pas, par exemple, changé de coupe de cheveux avant l'impression des vignettes. Ça, donc c'est... ça se joue aussi chez Panini ce soir.
C'est crucial, la coupe de cheveux d'un footballeur. Vous vous êtes amusé, Cyril, à compter les erreurs de casting de l'album lors des 8 dernières Coupes du Monde, et il y en a.
Oui, alors tous les ans, et depuis 70, il n'y a jamais eu de 100 fautes pour Panini en ce qui concerne l'équipe de France. Il y en a toujours entre 1 et 3, par exemple pour la Coupe du Monde 98, Ibrahim Ba, Lionel Letizy et Florian Maurice restent pour l'histoire dans l'album alors qu'ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde.
C'est ça.
Bon, voilà, pour l'histoire.
En même temps, une ou trois erreurs, ça reste limité. Alors cet album Coupe du Monde, c'est la pépite de Panini.
Oui, la toute première image Panini, elle date de 61, mais c'est avec la Coupe du Monde au Mexique en 70 que l'histoire s'est emballé. Aujourd'hui, l'album est vendu dans 120 pays et l'usine Panini à Modène en Italie, elle imprime chaque jour entre 8 à 10 millions de pochettes de stickers. Et cette année, le foot va rapporter beaucoup plus de la moitié du chiffre d'affaires de la marque.
Voilà, parce que Panini, ça n'est pas seulement du ballon rond.
Ah non, alors c'est pas seulement du ballon rond, c'est aussi plein d'autres choses. Il y a 20 collections chaque année en France, du basket, du rugby, mais aussi des dessins animés, des super-héros, des princesses. Alors en ce moment, c'est Dragon Ball, Pyjamask, Avenger, sorti hier. Et puis, on aura cet été les Indestructibles, c'est pas facile, Jurassic World 2, qui ont remplacé les albums chers de notre jeunesse, les albums Heidi, Capitaine Flamme, Bernard et Bianca ou Piff et Hercule.
Voilà, c'est le souvenir du paquet d'images achetées par les parents le vendredi soir chez le marchand de journaux comme récompense de fin de semaine si on avait bien travaillé. Sauf que,
et on en parle souvent ici, Sonia, ouais. Sauf que les marchands de journaux ferment à environ 700 par an. Alors Panini s'est adapté et aujourd'hui réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires en supermarché, ou sur Internet. Mm-hmm. Alors, c'est-à-dire que les parents, ils achètent des paquets de 6, de 10, de 50 et même de 100 pochettes. Hein, ça mm-hmm. fait jusqu'à 500 stickers. Ils les cachent à la maison, puis ils les distribuent au compte-gouttes aux enfants ou... secrètement, ils les gardent pour eux parce que les plus jeunes servent souvent de prétexte à des adultes qui collent toujours, alors qu'ils collent toujours un plus ou moins droit. C'est toujours ça l'éternel problème. Des années après,
écoutez.
Oh, je fais pendant 2-3 heures et puis j'arrête et puis je reprends. Et ce qui fait que ma femme, quand elle passe et qu'elle me voit en train de coller mes vignettes, elle me dit « Tu crois pas qu'à ton âge, tu pourrais faire autre chose que de coller des vignettes ?»
Ce à quoi vous répondez ?
Ben, ce à quoi je réponds que moi, j'aime bien ça et que je passe un bon moment et qu'après tout, j'emmerde personne.
Thierry Roland, vous avez reconnu Thierry Roland qui continuait de coller ses vignettes. Bon, en tout cas, un album Panini, du coup, c'est quand même devenu un gros budget. Hein.
Oui, alors dans les années 80, une pochette de 6 images coûtait environ 50 centimes de francs. Aujourd'hui, on est à 90 centimes d'euros les 5 vignettes pour la Coupe du Monde. Ainsi, un mathématicien britannique...
qui n'avait que ça à faire.
Voilà, donc c'était le métier statisticien, a indiqué pour remplir son album, ça pouvait coûter près de 900 euros à cause de ses fichus doubles, hein, les triples et même les quadruples. Alors Panini dit qu'il ne faut surtout pas dépenser cette somme et qu'il faut plutôt échanger avec des amis. C'est ça aussi l'esprit Panini. En tout cas, on estime que 70 à 80% des albums ne sont jamais finis.
Voilà, tout ça à cause de ces images rares, celles qu'on ne trouve jamais et qui nous rendent complètement paranoïaques parce qu'on se demande s'il n'y a pas un complot, Cyril.
Ouais, alors Panini nous dit, et on voit les images en effet, que toutes les vignettes sont imprimées en même quantité. Ce qui fait la rareté, c'est qu'ensuite certains joueurs sont moins échangés que d'autres. Par exemple, on n'hésite pas à garder 3 Neymar parce qu'on en met un dans l'album, un sur sa trousse et un près de sa tête de lit pour l'avoir tout près de soi à la nuit.
C'est ça, voilà. Et on va dédier cette chronique à la petite Constance qui a 5 ans et demi. C'est une petite fille qui se passionne pour le foot et qui remplit assidûment tous les soirs son album Panini.
Et qui vous offre l'image de Laurent Koscielny qui est collector parce que Laurent Koscielny ne sera pas à la Coupe du Monde, mais il est dans l'album Panini.
Eh ben génial, merci Constance.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Guillaume Dubois, directeur général de L'Express, est mon invité ce matin. 16 mai 1953, et naissance de L'Express, le journal se lance, il publie un inventaire des 100. Alors qui sont ces 100 ? Ce sont les 100 personnalités qui portent l'avenir, c'est ainsi qu'intitule cet inventaire L'Express. Parmi eux, vous allez les entendre, René Char, Simone de Beauvoir, Pablo Picasso, La Dernière Voix. Ouvrez bien grand vos oreilles, ce sera celle de François Mauriac. Écoutez parce qu'elle est magnifique.
Nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule admirable. Tout ce qui nous aidera plus tard à nous dégager de nos déconvenues s'assemble autour de nos premiers pas.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
J'aime beaucoup les gens.
Tout le monde.
Et j'y adorais pas de gens, je sais pas qui c'est. J'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas, un pot de chambre, n'importe quoi.
J'ai l'impression que c'est le chrétien en moi qui me pousse à la politique. C'est le chrétien qui éveille ma responsabilité.
Incroyable, non, la voix de François Mauriac, hein, le mythe du bloc-notes de L'Express. Voici un jour, Guillaume Dubois, ce que j'ai lu dans L'Express à propos de François Mauriac, catholique conservateur inflexible. Mauriac fut le pôle nord du journal dont Albert Camus, solaire et révolté, fut le pôle sud. Et ainsi, L'Express trouva son orbite. Je trouvais ça magnifique.
Vous savez que Mauriac dans L'Express, c'est un coup, au sens où effectivement c'était un chroniqueur du Figaro, c'était une grande plume du Figaro. Et qu'au moment de la création de L'Express... Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber s'aperçoivent que depuis quelques jours, la signature de François Mauriac n'est plus à la une du Figaro. Pourquoi ? Parce qu'il était effectivement, il avait une position qui n'était pas dans la ligne du journal sur le Maroc, en l'occurrence à l'époque. Coup de fil, etc. Transfert, c'est, on n'a parlé pas de mercato à l'époque. Et effectivement, L'Express se lance avec François Mauriac en chroniqueur, récent prix Nobel de littérature, star de la littérature française. Effectivement, c'est le premier coup éditorial de L'Express,
absolument,
à l'époque.
Alors pour ses 65 ans, donc, L'Express titre cette semaine les 100 qui nous inspirent. Était-ce une bonne idée de refaire cette liste en 2018 ? Parce que la comparaison, elle est, comment dire,
c'est à pas la même
fois
liste.
Vertigineuse, inquiétante, parfois désespérante, Guillaume Dubois.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne crois pas du tout que ce soit une comparaison désespérante. D'abord parce qu'effectivement, vous avez listé cette première liste des 100 moteurs de la France à l'époque en 1953. Les personnages, quand on prend cette liste, effectivement, étaient tous déjà pour la plupart très connus. Vous citez Pablo Picasso, c'est pas l'Express qui a mis en avant Pablo Picasso.
Non, mais alors attendez, c'est Maurice Thorez, c'est Paul-Émile Victor, c'est Jean Vilars, c'est Jacques Prévert, Sartre, Robert Schumann, Jacques Tati, Roland Petit, Mendès, François
Merleau-Ponty. Ils ont fait un listing à l'époque, effectivement, de personnalités.
Jean Lurçat, Henri Cartier-Bresson, Cocteau, Samuel Beckett, Pierre Boulez, ramenez-nous en 53, non?
Bah, on peut le dire de la France à ce moment-là, effectivement, à plein d'égards.
Absolument. À part qu'il n'y a pas une femme, enfin, il y en a deux sur
voilà.
les 100.
Nous, on a, sur nos 100, on a fait effectivement une parité absolue, ça me paraît la moindre des choses, en 2018. On a titré les choses de l'affaire différemment, on a dit les 100 Français qui nous inspirent précisément. On a voulu mettre en avant des personnalités exemplaires par leur action au service du rassemblement des Français, au service de la préservation de la planète,
ensemble.
De la diversité, etc. Au contraire, justement pour mettre en avant des femmes et des hommes qui agissent, qui bougent, qui font quelque chose, parce que aujourd'hui, en 2018, vous parliez effectivement de positionnement, d'envie, de ligne du journal, c'est ça qu'on a envie de mettre en avant, on a envie de s'adresser à ces gens-là, précisément, pas des femmes et des hommes qui crient, qui hurlent, qui veulent tout casser, mais des gens qui veulent changer la société et le monde en agissant à leur niveau, à leur place.
Mais on a vraiment l'impression
de voir
des personnalités qui ne laisseront pas de traces dans l'avenir, c'est-à-dire que quand on voit ces 100 de 1953...
Et qui aujourd'hui sont exemplaires à notre sens. Alors effectivement, il y a quelques personnalités un petit peu connues. Dans tous les domaines, on a fait effectivement un pari radicalement différent de celui qui a été fait en 53, il y a 65 ans, par nos aînés qui ont listé des personnalités qui étaient déjà extrêmement illustres et célèbres à l'époque. On a fait un choix radicalement différent. C'est un petit peu délicat de le comparer, en tout cas,
tel
quel.
C'est vous qui avez joué ce jeu-là, vous avez republié la liste.
On l'a republié pour montrer précisément qu'on marchait dans les pas de nos anciens, nos grands anciens.
L'Express hebdomadaire d'opinion créé en mai 1953, on va y arriver, entre 53 et 65 ans, pour soutenir Pierre Mendès France.
Le but principal de ma déclaration d'investiture sera de clarifier les graves problèmes que nous avons à traiter. Non seulement celui de l'Indochine dont je viens de parler, mais ceux qui se posent en Tunisie, au Maroc et au sein de cette Europe nouvelle qui se construit.
Dans Hebdomadaire d'opinion, Guillaume Dubois, qu'est-ce qu'il reste du mot « opinion » ? En quoi l'Express compte-t-il désormais dans le débat public ? Je pense que c'est une question fondamentale quand on dirige un journal.
Vous avez raison. Une précision, l'Express n'est plus un hebdomadaire d'opinion depuis 1964. Mmh. L'Express, au début des années 60, a connu une crise, à la fin de la guerre d'Algérie, qui était un événement positif, et en même temps, par rapport au combat qui était celui de l'Express, l'un des combats qui était celui de l'Express, qui était la lutte contre la colonisation, d'abord avec l'Indochine, on l'a évoqué, on vient de l'entendre avec les quelques mots de Pierre Manasse-France, et ensuite, évidemment, avec la guerre d'Algérie, il fallait se réinventer. Au début des années 60, l'Express est en crise, les ventes sont en chute, et à ce moment-là, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Françoise Giroud, toute l'équipe réinvente complètement l'Express avec un journal en 1964 radicalement différent. C'est le premier news magazine en France, et là où vous avez raison, effectivement, c'est que depuis 1964, l'Express est un news magazine, c'est-à-dire un journal en papier hebdomadaire paraissant une fois par semaine, le mercredi ou le jeudi, selon les concurrents actuellement, et que les news magazines ne se sont pas suffisamment depuis lors posé la question de leur évolution existentielle. C'est quoi un news magazine aujourd'hui en 2018 à l'heure du smartphone? Ça peut plus être la même
alors
chose.
Alors ça, on est archi d'accord et on va en parler, et vous prenez une décision radicale. Il n'empêche que les news magazines, comme vous dites, se posent néanmoins beaucoup plus la question de l'Express, de leur poids dans le débat public. L'Obs avec sa couve sur les migrants, Le Point sur énormément de sujets. Regardez ce qu'est devenu Marianne cette année sous la houlette de Renaud Delis avec la question de l'islam. C'est-à-dire que on peut parler de leur vente, on peut parler de leur support de lecture, c'est encore autre chose. La vraie question, c'est pourquoi on s'engage, pourquoi on ferraille? Est-ce qu'on est capable de faire des coups? Est-ce que d'un seul coup, on est capable de faire irruption, d'émerger dans le débat public? Et on a l'impression que l'Express ne le fait plus.
Je ne suis pas d'accord. Prenez notre couverture de la semaine dernière. N'abandonnons pas les filles sur la question du sexisme à l'école, qui est une question grave, qui n'est pas un sujet qui fait vendre a priori, qui est un sujet important pour nous. On l'a mis en une de l'hebdomadaire. 15 jours plus tôt, c'était le sujet de l'hôpital. Sauvons l'hôpital, avec prise de parole de médecins sur la crise à l'hôpital, qui était un sujet, à mon sens, également important. Mm-hmm. Il y a 2 mois, on a fait bouger les choses sur la situation du lycée Gallieni à Toulouse. On a mis effectivement l'ensemble du corps professoral qui a posé pour l'Express, à la une de l'Express, à Toulouse, pour lancer un cri d'alarme sur ce sujet qui était en proie des violences inacceptables. Le ministre s'est rendu sur place 10 jours après. Il a annoncé des mesures. Je crois au contraire qu'on fait avancer le débat. En tout cas, c'est notre souhait aujourd'hui de reprendre la parole sur des sujets qui nous paraissent
d'arriver
importants.
D'arriver à se faire entendre.
De se faire entendre. Je crois que c'est le cas, contrairement à ce que vous semblez penser. Mais ça prouve qu'on a encore du travail à faire précisément pour imprimer cette image, cet état d'esprit. C'est au contraire notre volonté de peser dans le débat public sur des sujets, notamment des sujets de société, pour faire bouger
Alors, voyons
le pays
comment vous
allez
vous y prendre. Vous, transformation, on va dire, radicale du processus de travail à l'Express. Il n'y a plus de journaliste dédié au papier et de journaliste dédié au web. Tout le monde travaille pour les deux supports. Et on publie d'abord sur le web, ensuite sur le papier. Ça a l'air comme ça d'être de la cuisine interne. En fait, c'est toute une logique éditoriale qui est repensée.
Alors, non seulement c'est une logique éditoriale et une organisation, mais en plus de ça, on a décidé, et c'est là où notre transformation en cours est beaucoup plus radicale que les autres titres de presse écrite, on a décidé d'arrêter d'avoir effectivement deux lignes éditoriales et deux organisations très différentes entre le papier et le numérique. Tous les principaux journaux papier ont sur Internet, et c'était le cas de l'Express jusqu'à présent, une stratégie de fil d'infos en continu, de mécanique, de modèle économique lié à l'audience et à la publicité, ce qui entraîne une schizophrénie importante et qui, à notre avis, n'est plus adaptée aujourd'hui, compte tenu du fait qu'effectivement la marque L'Express est d'abord, on le rappelait avec cette parenthèse historique, une marque de news magazine, effectivement d'approfondissement, d'originalité, et que donc cette schizophrénie n'était plus possible, alors que la presse écrite papier vit une difficulté structurelle qui doit conduire à se réinventer, à bouger, à être en mouvement.
Alors concrètement,
on a
ça
décidé de fusionner l'ensemble des
mais
produits
concrètement,
des lignes
qu'est-ce
éditoriales
qu'on a à lire
de l'Express. Vous avez à lire tous les jours sur l'application L'Express et le site internet, et une fois par semaine, le meilleur dans l'hebdomadaire papier, qui reste un point important, je le précise, parce que c'est souvent en ligne de fond, qu'est-ce que devient
le papier va disparaître.
L'hebdomadaire ne disparaît pas, ne disparaîtra pas. Au contraire, reste plus que jamais la vitrine de la marque L'Express, un support événementiel, effectivement, pour porter des messages, comme je l'évoquais tout à l'heure.
C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, on va lire le meilleur de ce qu'on a publié sur le web dans le papier. Ça veut dire que comment est-ce qu'on définit le meilleur de ce qu'on a publié sur le web ? Est-ce que c'est les articles qui ont été le plus achetés ? Est-ce que c'est les articles sur lesquels on a le plus cliqué ? Est-ce que c'est justement le succès du clic et de l'audience sur le web qui va dicter votre
éditorial ? C'est vraiment le meilleur au sens éditorial du terme, au sens de choix éditoriaux, effectivement par rapport à la publication qui s'est faite tous les jours sur le site internet et l'application. La rédaction en chef décide à la fois les papiers qui tiennent, parce qu'il y a quand même des papiers qui sont dans la actualité qui tiennent pas en termes de durée de vie quelques jours plus tard dans l'hebdomadaire, les papiers qui nous paraissent de meilleure qualité et désormais les papiers non pas qui ont été cliqués mais qui ont été appréciés par nos lecteurs, dans la mesure où à la fin de chaque papier sur les éditions numériques de l'Express, on demande à nos lectrices et à nos lecteurs de juger le papier, est-ce que ce papier vous a intéressé ou pas, sinon
mais
parce que c'était trop long.
Mais ça c'est une bascule énorme.
Ça c'est quelque chose de très important.
Mais est-ce que vous
ne
risquez pas de devenir un média de la demande et plus un média de l'offre ? Est-ce
non,
que vous
ne
risquez pas d'abandonner l'idée qu'on va bousculer le lecteur, on va lui faire lire des choses qu'il n'aime pas a priori, qu'il ne demande pas a priori ?
Vous avez raison, mais c'est les médias numériques d'aujourd'hui qui sont des médias de la demande et pas des médias de l'offre. Parce que précisément,
vous allez rester
les critères de l'audience, c'est le clic. Et le clic, c'est non pas j'ai apprécié cet article, mais c'est j'ai cliqué dessus, ce qui n'est pas du tout pareil.
D'accord.
C'est un modèle tout à fait honorable, mais je prononce pas de jugement ici. Mais c'est pas notre direction précisément. Je ne veux pas m'intéresser au clic et à l'audience, qui n'est plus notre préoccupation majeure dans notre stratégie digitale. Notre préoccupation majeure, c'est les téléchargements de l'application et dans un deuxième temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, les abonnements, parce qu'on veut reprivilégier le modèle de l'abonnement, y compris sur nos éditions numériques. politique. En revanche, pour moi, il est très important de demander à nos lecteurs, nos lectrices, à l'issue du papier, à la fin du papier, est-ce que ce papier les a intéressés? Et si ça ne les a pas intéressés, pourquoi? Parce que est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce qu'ils n'ont rien appris? Je veux que nos lecteurs apprennent des choses dans le journal. Ça paraît basique, effectivement, de le présenter comme ça, mais de demander, c'est pas une note, c'est pas quoi que ce soit, c'est juste, est-ce que ça vous a intéressé? De façon à avoir un élément à intégrer, pas le seul élément. On reste effectivement, il y a 130 journalistes à l'Express qui font des choix éditoriaux en fonction aussi de ce qu'ils pensent important. J'ai évoqué des sujets qui ont pu faire la une du journal, mais c'est ce mouvement-là dans lequel nous
engageons. J'aimerais bien que vous reveniez.
C'est une innovation importante.
Guillaume Dubois, dans quoi? 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois?
Quand vous voulez.
Parce que ce serait très intéressant de voir ce que les lecteurs ont fait émerger et ce que vos journalistes et vos rédacteurs en chef ont choisi de garder.
Ce sera avec plaisir.
Bon laboratoire. Merci beaucoup. L'Express est en kiosque. C'est la fin de l'émission. Ali Rebeilly, l'obésité ce matin.
À l'occasion de la journée européenne de l'obésité qui se tient demain, une question, l'obésité est-elle une fatalité? Pour poser toutes vos questions sur l'obésité et le surpoids, 01 45 24 7000.